Bonjour, eh bien comme chaque mois, tous les vendredis à midi, nous avons cette émission de théâtre pour essayer de vous inciter à aller au théâtre, pas seulement au spectacle, au théâtre, parce qu'il y a une vraie différence entre le spectacle et le théâtre. Hein. Le théâtre, c'est vraiment l'incarnation d'un comédien qui devient un personnage. Et maintenant, il y a de plus en plus de spectacles et de moins en moins de théâtre. C'est un des gros, gros problèmes dont personne ne parle, évidemment. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est aller au théâtre. Voilà, ça, c'est très important. On a besoin du vivant. On a besoin de voir son autre, son frère humain vivre et agir devant nous. Ça, c'est fondamental. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai invité nos amis du l'Espace Bernanos. Hein. Et Espace Bernanos, c'est un théâtre qui est rue du Havre, hein, je crois, si je me souviens bien, qui est dirigé par quelqu'un de très bien, voilà, Vianney Malin, qui est là, à côté, à ma droite. Et puis, l'Espace Bernanos va accueillir du Bernanos. Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein, voilà, donc, alors, c'est un texte, je crois que c'est un roman qui a été publié, il me semble, après la mort de Bernanos, hein, d'après ce que vous me le préciserez. Et qui s'appelle Un mauvais rêve et qui a été adapté par Anne Bouvier pour le théâtre. Voilà. Alors on va faire le tour de nos invités parce qu'il y a le directeur de l'Espace Bernanos, mais il y a aussi le metteur en scène, des comédiens donc de ce spectacle Un mauvais rêve. Alors vous allez peut-être vous présenter. On va commencer par les femmes, évidemment. Pardon, mais si c'est une radio de droite, donc on est très, c'est très important de commencer par les femmes. Voilà. Alors, présentez-vous. Alors,
bonjour, moi je suis Anne Bouvier, je mets en scène le spectacle, spectacle qui a été adapté par Christelle Reboul, qui l'interprète également. Voilà.
Très bien, très bien, très bien.
Je suis donc Christelle Reboul.
Oui, ça tombe bien.
Voilà, effectivement, j'interprète Simone Alfieri et j'ai adapté avec Jean-Pascal Attu, le petit-neveu de Bernanos.
Mais oui.
Voilà.
Et puis donc.
Et bonjour, moi je suis François Nambeau, je suis comédien, je fais partie de la distribution de Un mauvais rêve. Et j'en profite pour citer Olivier Clavery qui n'est pas là ce matin mais qui est avec nous au plateau tous les soirs.
Bon, très bien. Alors voilà, maintenant vous savez tout, il suffit d'aller voir le spectacle. Alors, prudemment, j'ai une petite tradition, c'est-à-dire comme je suis considéré comme un très 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 méchant critique, très vilain critique, qui dit toujours du mal de tous les spectacles que je vois, ce qui n'est pas complètement vrai, pas totalement faux non plus, mais enfin quand même. Donc, par précaution, en général, je préfère parler, quand on parle comme ça d'un spectacle que je n'ai pas vu. Comme ça, au moins, on est là pour en dire du bien, pour en dire que c'est formidable, que c'est merveilleux, etc., etc. Puis alors, après, j'irai le voir, et puis... Bah, il se passera ce qui se passera, ça, on verra. Mais au moins, comme ça, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, vous êtes tranquille, on peut dire ce qu'on veut, tout va bien, c'est parfait. Alors, Anne Bouvier. Alors, Anne Bouvier, moi, je ne vous connais pas, mais je connaissais votre père, qui était un... Il est toujours vivant, il a mon âge à peu près.
Oui, ça doit être à peu près ça, oui, complètement.
Qui est un des plus grands comédiens français. Hein.
C'est gentil. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, objectivement.
Un type formidable qui fait vraiment...
je lui dirais, ça lui fera très plaisir.
Non, mais je le pense vraiment.
Mais je sais, venant de votre part, je sais que vous le pensez.
Non, vraiment. Et alors, il a fait de sa fille. Ma fille a fait un peu de théâtre, mais je n'ai pas réussi à la cristalliser.
Ah, donc, moi, ça a été foutu. Complètement cristallisé.
Ouais.
Bah oui, parce que je...
Dès le départ,
je le voyais jouer Ruy Blas aux Tuileries. J'avais 3 ans. Et chaque fois, à la fin, quand il mourait, je m'effondrais en sanglots et j'avais peur qu'il soit mort pour de vrai. Donc après, je courais sur le plateau pour m'assurer qu'en fait, il était vivant. Donc après, c'est devenu une drogue. Il fallait que je revienne tous les soirs pour voir que ça va, il mourait pas pour de vrai. Et après, il m'a mise en scène, 20 ans plus tard, dans l'arène de Ruy Blas.
Ah oui.
Voilà. On a bouclé la boucle.
C'est amusant, c'est que je crois que sa première mise en scène était Lorenzaccio.
Absolument, voilà. Sortant du conservatoire, voilà. Avec une équipe incroyable. Je ne sais plus combien ils étaient au plateau, 25 ou 30. Et...
Ah ouais, ça a été là, je viens de monter Lorenzaccio, donc c'est amusant.
Oui,
ouais, donc, ouais, c'est mon dernier spectacle. Donc,
Il se joue, ce Lorenzaccio
dans mon théâtre, au théâtre du Nord-Ouest. Voilà, tout c'est encore ce qu'il y a de plus simple, mais on est plus tranquille. On n'a pas de problème avec le directeur qui ne vous emmerde pas.
Quelle œuvre.
Ouais. Voilà, alors ce directeur, est-ce qu'il vous ennuie?
Non, il est formidablement compréhensif et il nous aide beaucoup, très généreusement. On est très bien accueillis, avec beaucoup d'enthousiasme.
Bon. C'est trop gentil, Anne. Donc, je ne me suis pas présenté, effectivement, Vianney Malin. J'ai repris la direction de ce petit théâtre, cet espace Bernanos, il y a 2 ans. Voilà. Donc, je suis heureux et fier de cette production et de cette belle compagnie. C'est tout le mois de mai et juin. Et effectivement, je me suis senti appelé.
Ah oui, parce que Bernanos...
Voilà, ce texte, on en parlera, mais... pas si connu que cela, finalement, dans l'œuvre magistrale.
Je ne connaissais pas.
Non, Jean-Luc, il n'y a pas... hier, nous faisions une avant-première devant quelques journalistes. Par charité, je ne dirais pas les noms des grands bernanosiens qui étaient là, mais plusieurs m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas ce texte.
Ah. Ah, bien.
Donc, je me disais, effectivement, je me sens appelé si ce lieu, 4 rue du Ruhave, à côté de la gare Saint-Lazare, adossé à Saint-Louis-d'Antin, au milieu de ces grands magasins, dans ce lieu temple du merchandising, voilà, eh bien, il y a un petit lieu qui joue sa petite musique, ce théâtre alternatif, voilà, depuis 32 ans, qui s'appelle Bernanos parce que Georges Bernanos est bien né dans ce quartier, rue Joubert, à un jet de pierre. Voilà. Et donc, on se devait d'être là pour accompagner cette création.
Mais moi, j'ai un rapport un petit peu particulier, parce que vous ne le savez pas, mais il y a 30 ans, 32 ans, même quand le théâtre a été construit, on m'a consulté pour essayer de voir comment on pouvait en faire un vrai théâtre. Malheureusement, ils ne m'ont pas vraiment écouté. Donc, ça a été une salle qui est plus une salle de conférence qu'un vrai théâtre. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà.
Alors, vous avez raison, parce qu'on n'a pas de coulisses, parce qu'il y a plein d'inconvénients. Mais alors, quand je reçois des
j'y ai joué, hein, donc je connais.
Des compagnies en circulation, en déplacement, ils me disent « Mais Vianney, t'inquiète pas ». Chaque théâtre a des contraintes, a des problèmes, a des adaptations nécessaires à faire.
Ça, c'est
voilà,
évident.
Donc je fais avec.
C'est un théâtre, par exemple, où, vous savez, c'est le rêve du régisseur qui vient de mourir et à qui on dit, Saint-Pierre lui dit, vous avez une vie formidable, est-ce que vous aviez un rêve que vous n'avez pas pu exaucer? Il dit, oui, un noir complet. là, à l'espace Bernanos, le noir complet, c'est assez difficile. Donc, moi, vous présentez alors Christiane Reboul.
Oui.
Donc, je sais que vous êtes mariée, non, avec quelqu'un que j'aime bien, non?
Divorcée.
Divorcée, ah, pardon.
Je vous en prie.
Mais je l'aime bien pour quand même. Il était là
bien.
D'ailleurs,
on l'aime bien.
Alors, donc, vous avez fait l'adaptation?
J'ai fait l'adaptation de ce mauvais rêve. Et c'est Jean-Pascal Attu, donc un grand ami à moi, petit-neveu de Bernanos, qui m'a fait découvrir ce texte. En me disant, il y a un personnage féminin extraordinaire. Et c'est le cas, voilà. C'est cette Simone Alfieri, c'est une héroïne, c'est une tragédienne, c'est Phèdre, elle a cette puissance-là, et c'est Bernanos en 1935 qui l'a écrite.
Oui.
Donc c'est... C'est bouleversant parce que c'est une femme qui essaie de sortir de la condition qu'on lui a imposée. C'est une femme qui n'a pas d'amour, qui ne sait pas aimer. Et toute sa quête, c'est de s'en sortir par la création. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je ne sais pas.
Elle assassine quelqu'un, d'après ce que je...
Elle tue une vieille femme.
C'est ça, voilà.
C'est un crime horrible.
Dans la bonne tradition de Bernanos.
Voilà, et j'ai évidemment pensé à Anne pour m'accompagner dans la création de ce spectacle, parce qu'Anne, je l'ai rencontrée il y a maintenant 2 ans à Grignan, lors d'une lecture, donc au festival de Grignan.
Qui se passe de l'été, chaque
l'été,
été.
Voilà. Exactement, début juillet, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui s'en occupe. Et elle m'a mis en scène dans une lecture de Manon Roland, révolutionnaire.
Oui, oui, la femme de Roland.
Exactement. Et pour ma part, et je crois que c'est
réciproque,
oui. Et, mais j'ai eu vraiment un coup de foudre pour Anne, pour sa façon de rentrer dans le cœur des choses, elle a une manière très concrète et très absolue de voir l'entièreté, en fait, de l'humain, quoi. C'est comme si c'était une matière, l'humain. Elle met en scène comme si elle sculptait, comme si elle...
Donc elle fait vraiment du théâtre, c'est ça que vous êtes en train de dire, et pas du spectacle.
Elle fait du théâtre, elle va très, 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 très profondément. Et Bernanos, évidemment, est quelqu'un qui est un sourcier, d'ailleurs, c'est dit. Il cherche la source, le point d'où va jaillir tous ses rêves. Et voilà, et notamment ce mauvais rêve.
Alors, et vous, quel est votre rôle dans le spectacle ?
Moi, j'interprète un personnage qui s'appelle Olivier Mainville, qui travaille aux côtés de Simone Alfieri, qui est le personnage que Christelle interprète et qu'on suit tout au long du spectacle. Je suis un peu l'amant de Simone. Et un contrepoint, je dirais...
C'est facile d'être un peu l'amant.
Oh, oui, 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 non, c'est...
C'est problématique.
Et un contrepoint par rapport à dans cette histoire, d'un personnage qui tente de fuir et de ne pas se laisser enfermer, peut-être par ses rêves. Hein, qui essaye peut-être de garder un pied dans une réalité qui serait salvatrice, quoi. En tout cas, qui pourrait le sauver. Ça, c'est un des personnages que j'interprète, parce que j'ai la chance d'en interpréter deux.
Ah.
Et le deuxième est un jeune curé.
Mon Dieu, tiens, ça a été... Non, avec Bernanos.
Originalement,
encore, voilà.
Un curé qui passe.
Un curé qui va...
Et qui reste. Aujourd'hui, c'est le plus important. C'est pas qui passe, c'est qui reste.
Et que Simone aimerait tuer, quand même.
Oui, c'est ça. Le pauvre, il va avoir... Son histoire va croiser le chemin de Simone Alfieri.
Ce curé, là, dont vous parlez.
Oui, voilà, le curé va croiser le chemin de Simone. Pour le bien, pour le mal, on va pas vous le dire.
Ah bah non,
surtout venir
pas
voir le spectacle, mais voilà.
Un des grands problèmes, il faut jamais dévoiler.
Oui, ouais,
il y a
ouais,
toujours
ouais.
Tendance, quand on est invité comme ça, à raconter tout. Alors, ce qui fait qu'après, ouais. Bah, les gens, ils ont plus envie d'y aller. Donc, surtout avec Bernanos, il y a toujours un peu de suspense. Alors, on se tutoie, hein, bon, parce que voilà, je sais que ça ne se fait pas à la radio ni à la télévision de se tutoyer, mais là, on se connaît depuis tellement longtemps que... Donc, quel est ton rapport avec Bernanos ?
Ah, par la force des choses, j'y suis venu sur le tard, avec ses responsabilités, mais effectivement, c'est un auteur qui m'accompagne, aujourd'hui. Et j'essaye assez régulièrement de faire entendre du Bernanos dans ce petit théâtre. Le point de déclenchement, si je puis dire, c'est les propriétaires, en l'occurrence le curé de Saint-Louis-d'Antin, qui est président du théâtre.
Oui, c'est très
théâtre.
Lié à l'Église, hein, il faut
tout à fait,
le dire, hein,
tout
bien
fait.
Sûr. Et ça ne se cache pas.
Même si j'ai une totale liberté de programmation, mais effectivement, mon patron, c'est le père Jean-Marc Pimpanot, curé de Saint-Louis-d'Antin, et cette association qu'il préside. Après les années Covid, comme beaucoup de lieux, mais encore plus celui-là, avec sans doute des problèmes de direction, ce petit théâtre était en perdition, on va dire.
Ben oui.
Même si au début, des grands noms, Michael Lonsdale beaucoup donné, Marie-Christine Barrault, Brigitte Fosset, voilà, tous ces grandes voix sont beaucoup venues à l'espace Bernanos. Mais le lieu était vraiment en perdition, et donc ils ont comme savent faire les bons pères quelquefois, consulter une agence d'audit pour savoir ce qu'il fallait faire.
Quelques vieux catholiques qui faisaient du théâtre, il y en a très très peu.
Alors non, ils ont eu l'idée de consulter la rue.
Ah.
Connaissez-vous Georges Bernanos? Et donc à 98%, les gens ne connaissaient pas Georges Bernanos. Et donc la conclusion de l'audit, c'était de dire... Il faut changer le nom du théâtre pour sauver ce théâtre. Voilà. Et je suis arrivé, j'ai dit non, on va peut-être faire le contraire, on va peut-être jouer du Bernanos, faire reconnaître cette grande plume, cet auteur du combat qui est celui de nos vies. Voilà. Certes, on vous dira que Bernanos est le grand écrivain catholique du siècle dernier, mais bon, c'est pas parce qu'on lui attribue ce qualificatif qu'il faut voir qu'il ne parle que du bon Dieu ou de la Sainte Vierge. Tous ces personnages, toutes ces histoires sont que profanes, ce qu'on profane. Certes, il y a souvent un petit curé qui passe quelque part, ça change. La conscience qui nous titille.
C'était un homme absolument incroyable parce qu'on l'a catalogué comme... on pensait par exemple qu'il était d'extrême droite, etc. Alors qu'il a écrit un de ses grands livres qui est « Les grands cimetières sous la lune », qui est un livre totalement anti-facho, qui a lutté. Pourtant, c'était courageux parce que son fils... Lui était dans la phalange, travaillait avec Franco. Donc il est intervenu, il est allé là-bas, il a vu ce qui se passait. Et lui, catholique, profondément catholique, il a combattu Franco, quoi. Donc c'est déjà... Voilà. Ensuite, il n'a pas du tout été pétiniste, il a été gaulliste. Voilà. Donc c'est vraiment un parcours très, très, très particulier, avec une exigence. Et puis alors, les romans... Enfin pour moi, c'est extraordinaire, hein, vraiment. Monsieur Wynne, là, ce qui est un de ses derniers romans, c'est une merveille absolue. Bon, je ne parle pas du curé de campagne. Voilà, bon. Mais le problème, c'est de se demander comment c'est possible, c'est une vraie question, hein, comment c'est possible d'adapter un roman. Par exemple, en ce moment, dans mon théâtre, moi, j'accepte souvent des spectacles un peu avec lesquels je ne suis pas nécessairement d'accord. Mais là, par exemple, il y a une adaptation des Frères Karamazov. Et quand je parle des Frères Karamazov, parce que Dostoïevski et Bernanos, il y a vraiment un rapport très, très fort entre les deux.
Mais le mal et le diable sont là.
Mais c'est ridicule, si vous voulez. Pourtant, il a pris le metteur en scène a pris une adaptation qui avait été d'un des membres du cartel. Donc, vraiment... quelque chose de très sérieux, mais entre le foisonnement, la richesse, le génie, la métaphysique du roman des Frères Karamazov, il y a quand même quelque chose de malin, et puis ce qu'on voit sur le plateau après, mais on a l'impression que c'est vidé de son sens, vidé de son essence, vidé de ça. Et on voit une petite histoire presque policière, quasiment ridicule. Je ne devrais pas dire ça, parce que dire du mal d'un spectacle qui est chez moi, ça ne se fait pas. Mais voilà, mais cela dit, voilà, et alors le metteur en scène dit oui, mais au moins ça permet aux gens de connaître un peu Dostoïevski. Alors, tout ça pour vous dire... Qu'est-ce que vous... C'est un énorme risque.
Parce que c'est un roman policier.
Oui, c'est oui, d'après policier. Ce que j'ai compris, quelqu'un, je crois que c'est son éditeur qui l'avait dit, peut-être que tu gagnes un peu d'argent.
C'est plomb, exactement.
Et voilà, donc écrit.
Oui, Bernardo, c'est comme beaucoup
d'écrivains.
On
parle pas des comédiens qui meurent de faim, mais ça, c'est un autre problème.
Voilà, évidemment, il était donc en quête d'argent, bien sûr. Et effectivement, son éditeur plomb lui a dit, écoute, pourquoi tu n'écrirais pas un roman policier à la Simenon? Et voilà, il a commencé à écrire. Et puis très vite, évidemment, tous les thèmes existentiels de Bernanos sont là. Donc ça, on est dans une œuvre un peu hybride. Et c'est évidemment ça qui m'a passionnée. C'est une œuvre qui n'a pas été publiée de son vivant. C'est une œuvre inachevée. L'édition de la Pléiade de 2015 a fait un très très beau travail de recherche très pointu pour essayer de retrouver le bon ordre ou les choses manquantes, les petits manuscrits, les petites notes écrites comme ça sur un petit bout de papier qu'ils ont. Voilà, c'est vraiment un travail d'enquête aussi. Il y aurait presque une adaptation qui pourrait se faire aussi du point de vue de l'enquête, comment essayer de retrouver la pensée de Bernanos qui n'a pas été cousue par lui. Quoi. Mmh. Et justement, ça, moi, ça m'a permis une légitimité à adapter. Parce que, comment transformer alors que l'auteur a décidé que c'était un roman, qui je suis pour décider que ce soit du théâtre?
Oui.
Et en fait, justement, le fait que ce soit décousu, eh ben moi, ça me permettait de peut-être mettre mon fil. Quoi. Et je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait accompagner par Jean-Pascal Attieu, le petit-neveu de Bernanos, donc il a une connaissance très profonde de l'œuvre, puisque son père était le neveu de Bernanos, et il était son secrétaire. Il est allé au Brésil avec Bernanos, etc. Et donc, il a transmis aussi à Jean-Pascal toute sa connaissance. Il a des lettres, etc., d'échanges entre son père et Bernanos, etc. Donc, voilà. Moi, j'avais évidemment besoin de garder l'esprit de Bernanos, et Jean-Pascal a veillé à cela. Donc ça a été un travail très très long, ça fait plus de 10 ans qu'on tourne autour, avec beaucoup beaucoup de versions.
Oui, vous avez fait plusieurs versions.
Ça a été monumental, parce que c'est un livre très très particulier, ça commence...
C'est un gros livre, je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas du tout.
Alors, c'est de 150 pages.
Hein. Oui, c'est pas un énorme livre. Oui.
Voilà, c'est pas un énorme livre.
C'est pas les frères Karamazov.
On n'est pas sur la nouvelle non plus, oui, hein, des petites nouvelles de Bernanos qui sont les premières, qui sont magnifiques d'ailleurs aussi. Et c'est un huis clos. Donc déjà ça c'était pas mal au départ. C'est un huis clos. Bah, et après ça explose.
L'essence même du théâtre, les trois unités.
Voilà. Donc, et après ça explose. Ça. Et on est non pas au bord de la mer comme Don Juan, mais dans une forêt. Oui, d'ailleurs aussi, on est dans des forêts aussi, dans Don Juan. Il y a de ça. Hein. On est aussi,
on est dans
une structure très classique, très racinienne, et puis aussi très baroque. Voilà. Il y a déjà tout ça. Et au départ, en fait, il plante un personnage très fort qui est Emmanuel Gantz, interprété par Olivier Clavery, qui est un écrivain, qui est évidemment le double de Bernanos, quelque part, ce qui permet à Bernanos de se critiquer aussi, d'avoir comme ça beaucoup d'ironie sur lui-même. Et on a l'impression que le personnage principal, c'est Gantz. Puis derrière, confondu dans la tapisserie, il y a une petite secrétaire. Au départ, on la voit à peine, etc. Bon, les gens parlent quand même d'elle, parce que évidemment, il y a un certain Philippe qui est le neveu de Emmanuel Gantz.
N'en dites pas trop, faites attention.
Et puis au fur et à mesure, en fait, cette secrétaire, eh ben, Bernanos, il zoome sur elle. Il zoome tellement qu'on entre en elle. Quoi.
D'accord. Donc vous voulez dire par là que c'est pour ça que c'est particulièrement théâtral?
Oui. C'est particulièrement théâtral parce que on est dans des échanges entre les personnages, des choses très électriques. C'est que on est vraiment dans le rapport. C'est le rapport entre les personnages qui est étudié, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe entre Gantz, Simone Alfieri, la chose invisible entre les deux, voilà. Et c'est ça dont il parle.
Parce que c'est toujours très troublant et on s'en aperçoit là. Je ne sais pas si vous allez autant au théâtre que moi, mais on a de plus en plus comme ça d'adaptations de romans, qui. Voilà. Alors moi je me dis toujours, mais c'est comme si on voulait faire de la Cerisaie, de Tchekhov, un roman ou d'Oncle Vania. Ça n'aurait pas sens. Et tout à coup de réduire des œuvres qui sont tellement foisonnantes au théâtre. Alors, à condition de faire vraiment autre chose. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais faire vraiment autre chose. C'est un peu comme les adaptations, si vous voulez, les adaptations, quand on voit, je sais pas, aujourd'hui, Shakespeare, la chance de Shakespeare, d'une certaine façon, c'est que maintenant, il était anglais, quasiment même les Anglais n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit, alors il était adapté. Et le problème, c'est que les adaptateurs, ils essaient de courir après la langue anglaise, etc., alors qu'il faut faire autre chose. Parce que chaque langue a son monde, et puis parce que le théâtre est un élément très différent du roman. C'est pas du tout. Le théâtre, c'est une écriture inachevée qui prend son achèvement dans le corps du comédien. C'est ça le théâtre. Tandis que dans un roman, l'auteur couvre tout. C'est pas du tout le même métier. Ouais. C'est pas le même boulot. C'est pas.
Moi, j'avais adapté La Religieuse de Diderot aussi.
Oui.
Je pense, enfin, pour ma part, oui. On discute, je pense que c'est possible parce que justement, il s'agit d'incarnation. Mmh. Que ça soit La Religieuse, qui, là, c'est un roman en plus à jeu.
Hein. Oui. Ça, je l'ai lu.
Et là, Bernanos, en fait, c'est extrêmement dialogué aussi. Hein.
Ah oui.
Extrêmement dialogué.
Oui.
Et donc, ce qui nous a permis pratiquement de prendre les dialogues au complet. Quoi. Mmh. Et après, il fallait juste préciser le cheminement de cette femme, oui. Son parcours, voilà, son parcours initiatique. Mmh. C'est un parcours initiatique aussi. Donc, théâtralement, je pense que Bernanos ne l'a pas achevé parce qu'il s'est trompé de forme, peut-être.
Oui. c'est un roman inachevé.
Oui, c'est pour ça
d'accord.
Que je m'étais octroyé.
C'est comme Gogol, alors.
Voilà. C'est inachevé, justement.
Ah oui.
Comme la Religieuse de Diderot.
Ah oui. Mais parce que l'écriture donc du dialogue d'un roman n'est pas la même que l'écriture d'un dialogue de théâtre, c'est pas la même chose. Le romancier qui dialogue, c'est pas la même chose que l'auteur dramatique.
Écoutez, je trouve qu'il y a une
je vous pousse dans vos retranchements.
Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais là, ça se parle quoi.
Ouais.
Ça se parle, ouais, ça s'entrechoque et avec justement cette langue, avec cette langue. Très puissante, au scalpel, brute. C'est brut, quoi. C'est, en plus, la mise en scène qu'Anne a faite.
Est très forte.
Très forte dans cette chose, presque comme au microscope, quoi. Médical aussi. C'est très médical.
Je fais un insert dans votre dialogue, pour dire que je suis entièrement d'accord avec Jean-Luc sur le fait que tous les textes ne se prêtent pas à une adaptation théâtrale, et que il y a une mode dans l'air du temps au forceps. Ça, je te suis, mais à 200%.
Hier, par exemple, j'ai vu 93, une adaptation de 93 de Victor Hugo au théâtre. Mais c'était atterrant. C'était atterrant.
Et la famille Bernanos veille quand même au grain. J'ai eu souvent des conversations avec l'ami Maxime Daboville lorsqu'il a fait son adaptation du journal d'un curé de campagne. Oui. C'était tendu. Là, on peut l'avouer, nous avons quand même la bénédiction de la famille qui sont venus à une première lecture. Gilles Bernanos, Yves, considérant bien sûr qu'il y a eu plein de coupures, de personnages abandonnés, etc., mais que Christelle et Jean-Pascal avaient tiré le jus, le concentré de l'œuvre, ils avaient tout compris. Et mettre Simone Ferry comme héroïne était une très belle trouvaille. Enfin voilà, donc je rends hommage quand même au travail d'écriture, mais elle l'a dit, plus de 10 ans d'avoir malaxé ce texte.
Et puis là, vous touchez un autre problème, qui est le problème du droit moral des héritiers. Qui me scandalise à chaque fois, comme les héritiers n'ont pas leur mot à dire. Ça devient complètement atterrant, quoi. Droit financier, très bien, mais le droit moral, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est grotesque. Ça tue des spectacles, hein, vraiment des vraies pièces qu'on peut plus mettre en scène. Essayer de mettre en scène maintenant, je sais pas, Beckett par exemple, Godot sans l'arbre, c'est pas possible. Ils vont vous faire une crise. Enfin, donc c'est un vrai problème. Hein, le pouvoir des héritiers sur la création. Hein. Mais je crois que les Bernanos sont des gens très bien. Mais puis il faut prendre le risque que ça soit raté. Et puis c'est très bien. Puis c'est très bien de rater aussi des spectacles. On sait quelquefois que les spectacles ratés sont plus intéressants que les spectacles réussis. Et aujourd'hui à Paris, hein, ce qu'on voit surtout, c'est des spectacles moyens, bien faits, formellement, on sort de là, bon, bah, très bien, alors que normalement, on devrait, par le théâtre, bouleverser, transporter, parce que c'est le plus c'est l'art le plus, voilà, c'est le l'art le plus extraordinaire du monde, quoi. Donc, c'est voilà, et là, on a des trucs... Mais donc, grâce à vous, Anne, voilà, parce que vous avez une vraie expérience, vous avez monté plein de spectacles.
Oui, c'est vrai, je commence à en avoir fait pas mal.
Ah, oui, hein,
ouais. Et dans des formes très différentes.
Voilà.
C'est ce que j'aime faire.
Et ça, c'était important pour un texte comme ça, oui. D'avoir un metteur en scène qui connaît au moins, même si l'auteur, parce que Bernanos n'avait pas une vraie connaissance du théâtre de l'intérieur, c'est pas. Voilà. Parce que là aussi. Pourquoi les grands écrivains, les grands dramaturges d'aujourd'hui, comme par exemple Yasmina Reza ou des gens comme ça, parce qu'ils ont d'abord, ou Duringer, ils ont d'abord eu une expérience de comédien, de travail dans le théâtre, et puis donc ils savent ce que c'est que le non-dit, ils savent ce que c'est que... Voilà, ouais. Ils savent que... voilà. Et donc c'est important d'avoir un metteur en scène qui a mis les mains dans le cambouis.
Oui,
quoi,
oui, hein, certainement.
Cambouis,
et puis Christelle étant actrice, oui. Moi aussi. Et puis je pense que Christelle, elle a pu, avec Jean-Pascal, justement, rajouter ces notions dont vous parlez, de non-dit, de tout ça dans l'adaptation. Je pense qu'elle y était sensible, presque viscéralement, de se dire, de rajouter ça. Et aussi, c'est vrai que le fait que ce soit inachevé, peut-être, cautionne un peu cette liberté. Une adaptation, c'est toujours une forme de trahison.
Ah, oui. Par définition.
D'accord, par définition. Donc, je pense que tout ça, voilà, permettait cet exercice-là. Donc, j'ai essayé de trouver une forme. Je pense qu'il y a quelque chose de théâtral dans ce que vous appréciez, qu'on apprécie tous les deux, d'une forme un peu... On ne peut pas sortir en se disant c'est formaté, c'est machin. Il y a des surprises, il y a des codes. On essaie de trouver des codes théâtraux où on ne sait pas comment ça va... se construire. On n'est pas dans « Ah oui, d'accord, bon là, il va y avoir ça, ok, là, il va y avoir ça. » C'est un peu, on a cherché un peu cette surprise. Pas la surprise pour la surprise, mais la forme est étonnante et je pense qu'on peut sortir que ça interroge. C'est assez radical, c'est symbolique, c'est un théâtre d'objets, c'est un théâtre pauvre au beau sens du terme. Un peu à la Villard, un peu à la...
Bah, de toute façon, dans l'espace Bernanos, c'est très difficile de faire des gros
on
décors.
On n'a pas le choix.
Hein,
ouais. Que... on a intérêt à être pauvre et imaginatif. Mais c'est le parcours aussi. Mais et ça nous a donné, bien sûr, des contraintes et ça nous a permis, je crois, une liberté. Et ça nous a obligés à travailler sur l'imaginaire. Et là, il y a la place pour l'imaginaire, pour les spectateurs, ce qui manque parfois aussi dans certains peut-être spectacles aujourd'hui. On nous mâche le truc. Mais voilà, il faut penser comme ça. Voilà. Le message, c'est ça. Et là, on était plutôt dans des interrogations, dans du doute, dans du questionnement, dans de la recherche de profondeur. Et je pense que Bernanos, il y avait profondément du doute dans son œuvre, malgré sa foi forte. Et puis, ce sont la foi, le catholicisme est pétri de doutes. C'est aussi, n'est-ce pas, la richesse, non, de la chose. Donc là, on n'est pas dans des certitudes, justement, dans le spectacle. On est sur du doute, sur de la réflexion, de l'imaginaire. Enfin, c'est ce qu'on a cherché, en tout cas, à ouvrir.
Et alors, François Nambeau,
oui.
Est-ce que c'est une bonne directrice d'acteur?
Ah, c'est pas une bonne directrice d'acteur. C'est une excellente directrice d'acteur. C'est vrai qu'Anne est...
Elle est en face de lui, c'est pour ça qu'elle rougit.
Bah oui, qu'est-ce que j'ai
pas dit. Ça, vous pouvez pas voir. Si, maintenant que c'est filmé, alors
non, mais par contre,
vous allez voir ça, alors.
Le fait que Anne soit comédienne aussi permet un langage commun. On parle la même langue, donc... Et donc, ça, c'est très agréable. Donc, ça permet quelque chose d'immédiat, de comprendre. Puis c'est vrai que Anne a eu la gentillesse et l'ouverture de nous laisser prendre part à cette création et à nous permettre aussi de déverser notre imagination, effectivement, comme tu le disais, dans cet espace qu'il a fallu faire nôtre. Et chacun pouvait jeter ses idées, proposer ses idées. Et c'est quelque chose qui s'est construit, tous main dans la main. Sous ta direction, bien sûr, mais c'est ça qui était très beau aussi dans cette création, c'est que chacun il pouvait y déverser ses rêves, quoi, d'une certaine manière. Et il est vrai que moi, j'arrivais parfois le matin en répétition en leur disant, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé cette nuit, je vous délivre les images telles qu'elles me sont apparues, et puis à partir de là, on rebondissait, et puis, ah oui, ben ça, on peut garder, ça pourrait... Et ça faisait appel, les images faisaient appel les unes aux autres, et...
Donc ça n'est pas, vous n'êtes pas une metteur en scène très directive, d'après ce que...
Je n'aime pas la dictature, je n'aime pas la tyrannie, je n'aime pas l'ego qu'on peut trouver parfois chez certains metteurs et metteuses en scène. C'est aussi peut-être pour ça, parce que je faisais beaucoup de théâtre public au départ, et j'ai rencontré des gens super, mais il y avait un moment, cette espèce d'omniscience du metteur en scène ou de la metteuse en scène qui me gênait. Et c'est pour ça que j'en suis un peu partie. Et j'aime la co-construction, et j'aime, parce que c'est une question de confiance. Il ne faut pas avoir peur d'écouter les autres. Et beaucoup, c'est pratique la dictature, parce qu'on n'écoute plus les autres. Mmh. Non, c'est moi qui ai raison, et moi je suis toujours pour qu'on prenne la meilleure idée. On s'en fout de d'où ça vient. Mmh. C'est mon avis. Mmh. L'important, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner un cap si on a cette responsabilité-là que m'a offerte Christelle. Mais voilà, je suis plutôt dans cet esprit-là. Et voilà. Donc j'aime bien co-construire et prendre ce qu'il y a à prendre de mieux chez chacun et chacune.
Mmh. Enfin, le théâtre, ce n'est pas des idées.
Non.
Non, ben, vous avez raison. C'est aussi beaucoup des sensations.
Ouais.
Et je crois qu'une chose aussi que Anne fait très bien, je crois qu'elle sent bien les gens, me semble-t-il. En tout cas, pour ma part, même si on se connaissait dans la vie depuis quelques années, on n'avait jamais travaillé ensemble au théâtre. Mais je trouve que, en peu de mots, de choses parfois que j'ai pu te dire, des craintes, des inquiétudes que j'ai par rapport à mon travail, elle a su très vite et très bien cerner et ensuite distiller les mots qu'il fallait pour corriger ceci ou cela. Et ça, cette intelligence sensible... c'est très précieux, quoi. C'est très agréable. Très appréciable.
Faire de théâtre quand on le mettait en scène, si on n'aime pas les gens. C'est le béaba. Faire du théâtre sans aimer les gens, c'est absolument pas possible.
C'est de l'amour. Tu me parlais d'amour chez Bernanos.
Mmh. Ah oui. Ah
oui.
Et t'en parlais bien.
Et puis c'est même tout ça est évidemment une mise en abîme dans ce texte, hein, puisqu'il s'agit quand même d'une femme qui essaie de trouver son personnage.
Mmh. Oui, d'accord.
Donc c'est aussi théâtralement ça. Mmh. La quête même. Oui. De Simone est théâtrale.
Mais pour revenir à la mise en scène, c'est pas la même place, le rôle de metteur en scène et de comédien. Le comédien, il se rend pas compte de ce qu'il fait, de ce qu'il dégage. C'est le metteur en scène qui le voit. C'est pour ça que c'est pas une affaire de tyrannie ou de. Moi, je suis très directif, par exemple, dans le travail, mais très, très, très directif.
C'est vrai.
Vraiment, un comédien, il ferme sa gueule. Et quand je suis comédien, parce que je joue beaucoup maintenant, je ferme ma gueule.
Oui.
Et je laisse le metteur en scène, et même quand il dit des conneries, parce qu'il a son mouvement, il voit des choses que nous, on ne voit pas quand on est sur un plateau. On est démunis sur un plateau. On ne sait pas ce qu'on dégage. Et c'est le metteur en scène, quand il est bon, évidemment, qui voit ce qu'il va, qui prend de vous, qui sort de vous. Alors le problème, c'est quand le metteur en scène sait à l'avance.
Ouais.
Mais il faut. Moi, je sais, par exemple, quand je suis en train de monter il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Bon, je ne sais rien. Je ne regarde même pas la scène avant. Et puis je vois ce que dégagent les comédiens sur le plateau. Et à partir de ce qu'ils dégagent, je vais travailler, je vais les diriger, voilà. Mais à partir de ce qu'ils dégagent. Mais c'est eux, mais simplement eux, ils sont maîtres de leur corps, ils sont maîtres de leur voilà. Et puis moi, je suis maître de la parole. Chacun a son boulot. C'est pas le même travail. Et c'est pas parce qu'on est maître de la parole qu'on est supérieur ou dictateur ou non. C'est pas simplement c'est que c'est pas la même place. On n'a pas la même place. Et c'est très important ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'un metteur en scène soit comédien aussi, parce qu'il se rend compte évidemment des difficultés. D'un comédien, il sait très bien quand tout d'un coup on va lui donner une indication qu'on ne comprend pas, alors qu'en fait le type il est en train de chercher son texte, par exemple. Et alors on dit, mais que. Alors tout simplement, et si on n'a pas été comédien, on ne sait pas ce genre de choses, on ne comprend pas, pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi ça ne. Voilà. Donc c'est vraiment d'avoir cette pratique-là, quoi.
Oui, oui.
Et c'est très important aussi souvent pour les comédiens d'avoir fait un peu de mise en scène pour se rendre compte aussi de la problématique.
Oui, bien sûr.
Qui est souvent une problématique psychologique.
Oui.
Parce que, voilà, si on a des comédiens un peu caractériels, un peu difficiles, un peu, voilà, un peu fragiles, un peu, voilà, tout ça, c'est une parole, une douceur, une intelligence, une écoute, tout ça règle ça. Et les vraies difficultés, quand on est metteur en scène, c'est ça, c'est se retrouver avec des gens un peu trop fragiles ou un peu trop... Voilà, mais quand ça se passe bien, il n'y a pas un rapport de pouvoir, simplement, c'est vrai.
Ouais, complètement.
Moi alors, par exemple, je mets en scène, je suis là le jour de la première et on ne me voit plus après.
C'est vrai, vous ne venez plus après?
Ah non, plus jamais.
Pourquoi ?
Mais parce que, si vous voulez, le théâtre, c'est quoi ? C'est un rapport entre le metteur en scène et l'auteur. Ensuite, c'est un rapport entre le metteur en scène et le comédien. Et ensuite, un rapport entre le comédien et le spectateur. Et à chaque fois, c'est un deuil.
Oui.
On doit partir. Alors, les metteurs en scène qui s'accrochent, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et une fois qu'on a permis l'incarnation d'un personnage, eh bien, ce personnage, il est libre. Et, et si on a bien travaillé, ben, il ne décale pas. Exactement comme dans une éducation. Moi, j'ai été bien éduqué, je ne fais pas n'importe quoi dans la vie. Mmh. Voilà. Bon, ben, c'est pareil pour vous, avec un père comme le vôtre.
C'est vrai que ça ne nous appartient plus, après, il faut faire le deuil de ça.
Mais ce n'est pas un rapport de pouvoir, quoi. C'est souvent, les comédiens
croient que
c'est un rapport de pouvoir.
Vous savez, il y en a qui viennent tout le temps faire des notes le soir, parce qu'ils ne veulent pas lâcher.
Ils
continuer à garder le contrôle.
Et puis c'est affreux, parce que dès qu'on prend une note, on va le donner. Mais le comédien sur le plateau, alors qu'il doit être libéré, qu'est-ce que c'est qu'un comédien ? Un comédien, c'est quelqu'un qui doit être unifié, être pleinement l'un et pleinement l'autre, comme le Christ. Pleinement Dieu, pleinement homme, pleinement le personnage, pleinement soi-même. Voilà, c'est Calcédoine. Il faut pratiquer Calcédoine au théâtre tous les jours. Hein. Ça, c'est le béaba. C'est pour ça que je suis catholique. Une des raisons profondes. Bon, parce que le théâtre permet de comprendre l'incarnation. C'est pas n'importe quoi. Hein. Comprendre l'incarnation, surtout aujourd'hui, avec l'islam et le judaïsme qui ne comprennent pas comment c'est possible, cette folie du Dieu incarné. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais au théâtre, on montre ça tous les jours, on le prouve tous les jours quand on est comédien. Parce qu'on a toujours ces problèmes d'impôts, ces problèmes d'amour, ces problèmes-là, et pourtant on est tel personnage, tel autre, voilà, Célimène, Alceste, voilà. Et pleinement. Mm. Pleinement, pas la moitié de l'un et la moitié de l'autre. Et donc il suffit d'un rien pour que tout d'un coup, ben, cette hypostase, pour reprendre le mot théologique de l'incarnation, eh ben, pour que cette hypostase ne se fasse pas. Il suffit d'un rien. Ouais. Un trou, un spectateur qui mange un bonbon au premier rang, une sortie de secours qui est trop soulignée.
Le noir qui n'est pas complet.
Voilà, qui n'est pas complet. Enfin, il y a plein de petits problèmes. Oui, parce que maintenant, aujourd'hui, dans les théâtres, souvent, ils sont beaucoup plus obsédés par la sécurité que par l'artistique.
Donc, c'est vrai.
Ça devient... L'autre jour, j'étais au théâtre Essayon. J'ai vu un spectacle qui était plutôt bien, d'ailleurs. Il y avait la sortie de secours qui était là. On ne voyait plus que ça. Alors, ils faisaient des noirs. Ils faisaient des changements dans le noir. Les changements dans le noir, on les voyait tous parce qu'à cause de la sortie de secours qui était là...
Mais ça aussi,
un peu. J'écoute avec grande attention votre discussion, sans rentrer dans ce sujet de l'accouchement de la mise en scène, mais je peux quand même porter un regard sur le produit fini, puisque là, j'ai laissé totale liberté dans ce travail.
Il manquerait plus que les directeurs de théâtre se mêlent à les metteurs en scène.
Folie. Mais sur ce que j'ai vu, in fine, voilà, je peux vraiment et regarder Anne dans les yeux pour dire que son travail est admirable. Elle révèle le texte de Bernanos à travers une grande modernité dans la façon de bousculer. Certes, on est dans un drame, donc il y a la pesanteur, il y a la noirceur, les éclairages, le décor, tout ça.
Il y a la grâce, j'espère.
Et comme toujours chez Bernanos, même si peut-être il faut le chercher dans ce texte-là, contrairement à d'autres, effectivement, le combat du bien et du mal, ça, effectivement, parce que Simone est dans son auberge et que l'aubergiste lui demande ses pièces d'identité parce que la police est regardante. On est à quelques heures du crime et voilà, il y a tout ça. On se dit elle va hésiter, elle va, et puis elle croise par deux fois ce curé qui est cette conscience. Qu'est-ce qu'il fout là et elle va passer à l'acte, mais et donc il y a tout ça, et à chaque fois la mise en scène vient nous interroger, nous, mais moi aussi, dans ma vie, quand je suis devant la patte d'oie, est-ce que je prends à gauche ou à droite, est-ce que je prends le mal, ou je peux encore me sauver, voilà, vraiment, Anne a fait un travail extraordinaire, vraiment extraordinaire.
Oui, ça, c'est un vrai directeur de théâtre.
Ça, hein, voilà.
Hein, voilà. Très heureux.
Qui sait passer pas comme moi, quoi. Qui
dit de mal, mais, non, franchement.
Des spectacles que je prends.
Oui, c'est ça.
Moi, je dis toujours, au Théâtre du Nord-Ouest, il y a les meilleurs spectacles de Paris et les plus mauvais. Donc, alors, on va faire une petite pause parce que, vous savez, la radio, la radio courtoisie a besoin de vivre. Et donc, elle fait une petite page de publicité, très courte en général, mais très efficace.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je vais tourner.
Oui, bien.
Voilà, bah nous pouvons reprendre notre conversation. Alors, nous étions en train de parler de Bernanos et de Un mauvais rêve qui va se jouer. Alors, peut-être donner les dates et puis numéro de téléphone. À un moment donné, il faut aussi, puisqu'on parle de la publicité pour Radio Courtoisie, il n'y a aucune raison de ne pas faire de publicité pour l'espace Bernanos.
Alors, c'est un spectacle qui va se jouer tout le long du mois de mai et du mois de juin, donc Un mauvais rêve. De Bernanos.
D'après Bernanos,
qui c'est une adaptation, tout à fait.
Une adaptation de Christelle Reboul.
Absolument. Voilà. Avec Jean-Pascal Attu. Voilà. Et donc, c'est à partir du 5 mai, 4 mai, même si vous voulez, ça c'est le jour de la générale, grande soirée de gala avec bord de scène, cocktail.
Oh là 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 là.
Donc là, vraiment,
cocktail,
pour les amoureux le 4 mai. Et à partir du 5, voilà, on enchaîne le 6. Donc c'est joué surtout en début de semaine.
C'est tous les jours
Alors, c'est pas tous les jours. Mais
il y a des jours réguliers.
Il y a des jours réguliers en début de semaine.
Lundi, mardi.
Tout à fait. Le mercredi, on a quelquefois des soirées à 19h pour les personnes qui se couchent tôt. On a le dimanche à 15h pour les personnes qui préfèrent
15h30.
Voilà, donc il faut aller sur espace-bernanos.com, voilà, vous avez toutes les bonnes dates et vous pouvez réserver
aussi, parce qu'il y a encore des gens qui téléphonent. Alors, pour réserver, ça arrive.
C'est de plus en plus rare.
Oui, je sais que c'est de plus en plus rare.
Mais je peux donner mon téléphone personnel, 06 62 09 98 21, pas de souci.
Ouh là là, mon Dieu. Alors maintenant, il faut que tu surveilles tes propos, parce que sinon tu vas te retrouver avec...
Les insultes vont pleuvoir.
Enfin bon. Et ça va, donc ça se joue, ça se termine quand?
Alors la dernière, c'est le 22 juin. Voilà, et on a déjà une première date. Donc on disait tout à l'heure que l'on commence dans ce quartier du 9e lieu de la maison natale de Bernanos, et on a déjà symboliquement une date qui sera le samedi 6 juin où nous allons à Pellevoisin, petit village de 900 âmes, mais qui organise chaque année, sous la baguette de Dominique de la Rochefoucauld, les rencontres bernanosiennes, les rencontres de Georges Bernanos, puisque c'est la source familiale maternelle, et c'est là où Georges Bernanos est enterré. Donc voilà, je parle une symbolique de la naissance à la vie. On a déjà une première date. C'est parti pour la tournée.
Et vous n'allez pas en Avignon comme...
Pas pour cet été, mais on le rêve déjà.
Et alors, comment vous faites pour... comment vous accueillez les spectacles en tant que directeur? Comment ça se passe exactement? Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont travaillé chez vous, donc... comment ça se passe? Comment vous louez les salles? Comment ça se goupille?
Alors, effectivement, d'abord, il y a une ligne éditoriale, j'allais dire. Effectivement, on prête attention particulièrement à ce qui est en respect, en amour de l'humanisme et de l'anthropologie chrétienne, mais pas que. On est capable, on a accueilli il y a quelques mois du Guy de Maupassant. Voilà.
Oui, le catholique le plus...
Je l'accorde.
Un homme qui préfère les dames au Christ, hein,
mais
voilà.
Mais du coup, oui, mais du coup on va retrouver souvent des grands auteurs comme Paul Claudel. Effectivement, on a joué dernièrement la mort de Judas, qui est un texte...
Oui, c'est un texte formidable.
Oublié, méconnu. J'aime bien aller trouver des petites trouvailles comme ça, mais du grand Claudel. Alors, c'est un texte court, donc c'est compliqué à le programmer.
On vient de le faire au Nord-Ouest, c'est pour ça que
je... Oui, d'accord. Compliqué, parce que ça dure à peine trois quarts d'heure. Donc, du coup, j'ai fait une belle discussion après avec Eric Emmanuel Schmitt, voilà, qui lui est travaillé sur ce sujet. Mais qui est ce Judas? Est-ce que c'est vraiment un trait qui a surgi? Ou est-ce qu'il était dans le plan de Dieu? Il y avait besoin de ce gars-là pour le plan de Dieu. Et donc, voilà. voilà, c'est toute cette conversation qu'on a eue après un spectacle. Voilà, on fait souvent des choses comme
c'est
ça.
C'est un texte particulier chez Claudel, parce qu'il est, il n'est pas très poétique, parce que souvent, les textes de Claudel se noient dans une espèce de poésie avec plein d'accents circonflexes. Alors que là, le texte est très simple. Très simple. Vraiment, c'est un très beau texte, cette mort de Judas.
Épuré, on parle d'une chose. Voilà, donc on fait du La Fontaine, on a fait du Marcel Pagnol, mis en scène par Nicolas Pagnol, avec donc Vincent Fernandel, le petit-fils, qui sont en amitié les deux petits-enfants. Voilà, donc oui, on entend à l'espace. Donc effectivement, par rapport à la question, c'est souvent des productions, des compagnies qui viennent, et effectivement, le théâtre prend une participation frais et garde leur billetterie.
Vous ne louez pas les salles d'une manière, parce que maintenant, ça devient absolument terrifiant.
Ben non, on est en association à but non lucratif, mm-hmm. Donc voilà, donc on peut accueillir tous les projets qui sont dans cet esprit. Voilà, après, on fait du contemporain. Là, j'ai parlé de grands classiques. On a fait Mozart au paradis, qui est un texte magnifique du philosophe Fabrice Hadjadj.
Ah, je le connais, Fabrice. Oui.
Voilà, qui était joué par Philippe Chevalier. Le duo de Chevalier Aspalès. Voilà, oui. Ils se sont séparés, mais chacun continue sa carrière. Voilà. Et puis on fait aussi, bien sûr, des choses plus spirituelles. Dernièrement, on a écouté une grande poétesse qui s'appelle Madeleine Delbrel, qui vient de l'athéisme militant et qui s'est convertie brutalement dans les années 50, mais qui a voulu vivre sa foi de façon radicale, c'est-à-dire qu'elle a voulu quitter les quartiers bourgeois pour aller vivre au milieu du peuple athée. Donc à l'époque, c'était les banlieues rouges. Autour de Paris, mais les petits curés autour disaient mais viens faire le catéchisme, etc. Elle disait non, c'est pas ma vocation, moi je veux être au café, je veux être dans la rue, je veux être en rencontre avec ce peuple loin de l'espérance chrétienne. Voilà, et donc elle a continué son travail d'écriture. C'était une très belle plume, une très grande poétesse, et donc voilà, on a fait redécouvrir cette plume et ce parcours de vie avec Brigitte Fosset, qui avait accepté d'être Madeleine ce jour-là, voilà. Et puis plus dernièrement, et qui sera en Avignon, là, ce spectacle-là, on a produit un spectacle qui s'appelle « Vivre d'amour », très original. On parle donc de Thérèse de Lisieux, la grande sainte, peut-être la plus grande du siècle précédent. Et là, la comédienne Jade Lanza a fait un travail en se plongeant dans la correspondance de sa maman, donc Zélie, aussi sainte selon l'Église, sainte Zélie Martin. Et donc, c'est à une époque où on écrivait beaucoup, beaucoup de courriers. Et donc, Zélie, elle écrivait à son frère Isidore, elle écrivait à son mari, Louis Martin, elle écrivait à ses grandes filles, qui étaient déjà pensionnaires. Et donc, à chaque fois dans ses courriers, elle évoque sa petite dernière, sa petite Thérèse. Bien sûr, on ne parle pas de sainteté. Elle a, puisque Zélie est morte très jeune, à 45 ans, donc on parle vraiment des cinq premières années de la petite Thérèse, qui est vraiment... Oui. Mais c'est le regard d'une mère, c'est d'une mère qui est inquiète parce que elle a un caractère de cochon. Comment corriger ça? Parce qu'elle a une santé fragile. Donc voilà, c'est tout le regard le regard d'une mère universelle quelque part. Et donc ça nous fait repenser toute la sainteté de cette grande sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et on se dit, c'est une aventure à construire. On ne naît pas saint naturellement.
Donc ça n'est pas seulement un lieu prosélyte là pour parce que c'est un des grands dangers. Moi, je sais que souvent, comme je suis considéré comme un metteur en scène catholique, alors on me donne à lire la vie de saint machin, la vie de saint truc. Alors que le théâtre, quand il est chrétien, c'est un théâtre qui doit montrer l'homme et l'homme, c'est aussi un assassin, c'est aussi un pécheur, c'est aussi un ignoble individu, et c'est aussi Jeanne d'Arc, c'est aussi une sainte, c'est aussi c'est toute l'humanité, quoi. Et le théâtre chrétien, entre guillemets, si tant est que ça existe, c'est montrer l'homme, tout simplement, et l'homme dans toutes ses dimensions. Parce que le théâtre, c'est le lieu où on peut regarder. Parce que dans la vie, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas les gens. Là, on paie sa place pour regarder l'être humain vivre et agir. C'est pour ça que c'est essentiel à la cité, le théâtre. Et si nos hommes politiques le comprenaient, Et c'est vraiment important. Donc c'est bien que ce ne soit pas du prosélytisme.
Je confirme, je suis en ligne, Jean-Luc, avec ton analyse, 200%. Je ne sais pas ce que c'est que le théâtre chrétien.
Moi
non plus.
Non, parce que même des gens comme Lonsdale, par exemple, que je connaissais bien, il avait un petit peu cette tendance-là. En plus, le catholicisme de Lonsdale, on pouvait en discuter, parce qu'il était plus bouddhiste que catholique sans le savoir. Moi, j'ai eu des grandes discussions avec lui, c'était assez marrant, quoi. Mais enfin, et vous, est-ce que vous êtes croyante? Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Hein. Ouais, mais
je sais pas un piège, hein, parce que sinon il va vous mettre dehors si vous dites que vous n'êtes pas. Mais enfin, avec ce qu'il vient de dire, vous êtes tranquille.
Mais bien sûr. Pour l'instant, c'est une question là qui me taraude beaucoup. Je suis plutôt sur les forces de l'esprit.
D'accord.
Version mitterrandienne, je dirais. J'avais été très marquée par cette phrase. Je trouvais ça. Je crois. En quelque chose, en des synchronicités, en des forces de l'esprit. Presque quelqu'un m'attendra là.
À la fin de sa vie, il était obsédé par par la religion.
On est d'accord.
Oui.
Voilà. Et là, moi, je commence à être de plus en plus obsédée.
Ah bon?
Voilà.
Alors, vous êtes encore toute jeune.
Ah, pas tant que ça. Hein. Ah. J'ai déjà fait la moitié du parcours.
Oh non.
Donc j'aimerais bien un peu mieux comprendre la deuxième partie.
Et vous, Christelle, alors vous êtes croyante ou... Pareil, vous n'êtes pas obligée de répondre, c'est pas un piège.
Hein. Pas du tout, je suis protestante.
Vous êtes protestante?
Je suis protestante d'origine et d'éducation, et j'ai dû m'en sortir.
Sortir du protestantisme?
Sortir du carcan, de la notion de péché, de tabou, d'interdit. J'ai dû trouver ma liberté, ma foi est là, mais j'ai dû sortir des choses que j'estime en fait extérieures à la foi qui sont imposées.
Et dans le protestantisme, il y a tellement de différences entre Luther et Calvin. Il y a plus de rapprochement entre Luther et le catholicisme qu'entre Calvin et Luther, par exemple. Vous étiez, votre famille était plutôt luthérienne, calviniste
De l'Église réformée.
L'Église, oui.
De l'Église réformée, et plus précisément, pour rentrer dans les détails, mon père était d'origine darbiste. Donc c'est un protestantisme très... plus évangélique et très très obtus. Et ma mère est suisse d'origine et mon grand-père avait même créé une église.
Ah.
Voilà, donc c'était des gens très forts, très engagés, mais très voilà, c'était un obscurantisme. Voilà, c'était quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, avec du recul, est plus proche de la secte que de l'humanisme diffusé par le Christ.
D'où ce rapport avec Bernanos.
La religieuse, d'ailleurs, de Diderot.
Oui.
J'ai quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Et que Bernanos dit très, très justement dans la scène avec Olivier Mainville. Il fait dire à Olivier Mainville que... Simone et le monde de Gantz, etc., ils ont une morale comme ça, avec on leur a inculqué le péché et que c'est une petite grenouille, le plaisir, que c'est une petite grenouille compie, qu'il faut souffrir dans le plaisir. Voilà, toutes ces choses, en fait, qu'on nous a inculquées. Je m'interroge pourquoi la religion, pour asseoir son pouvoir, va... titiller l'intimité profonde des gens, c'est-à-dire leur sexualité. De quel droit est-ce qu'on va dire je dois faire l'amour dans le mariage et pas hors mariage? Moi, j'ai été éduquée comme ça. Il fallait que je fasse l'amour que dans un cadre, par exemple, marital. Voilà. Pourquoi? Voilà, toutes les religions, elles essaient de maintenir une pression. Parce que elles veulent dominer l'intimité profonde et la sexualité de l'individu. Et ça, je suis révoltée là-dessus. Parce que c'est des vies entières, en fait, qu'on brise. À partir du moment où on estime qu'on peut regarder ça. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à soi et que personne, et aucune idéologie, aucune religion, aucune morale, aucune éducation Il doit se mêler de ça.
Mmh. Vous ne la mettez pas dehors avec un des propos comme ça ?
Je l'accueille à bras ouverts, même si je vais lui répondre en tant que
oui, parce que
catholique.
Hein. Il y a beaucoup à dire, je vous répondrai aussi. Mais...
Parce qu'elle a mis toutes les religions dans le même sac. Hein. Et donc je vais l'inviter, je vais lui proposer des petites lectures. Hein. La théologie de Jean-Paul II,
par exemple,
a tout bousculé quelque part sur notre rapport au corps et à l'amour. Le chrétien est celui qui doit travailler la vertu de la charité, du don. Bien sûr, on peut de temps en temps donner une petite pièce à un gars dans la rue. D'ailleurs, ça devient plus un peu compliqué parce qu'on n'a plus de monnaie avec le tout numérique. Mais voilà, c'est l'acte par excellence du chrétien, la plus belle des vertus, la charité et le don. Après, il y a de multiples façons de se donner. Mais dans la théologie du corps de Jean-Paul II, le summum du don, c'est le don de son corps à l'autre dans l'amour. C'est-à-dire, je ne viens pas chercher mon plaisir, je suis là pour donner mon corps pour le plaisir de l'autre. Donc c'est toute cette réflexion théologique qui met l'amour charnel au summum de la traversée de la vie humaine. Donc je vais te donner quelques petits textes pour te réconcilier avec la sexualité. Le sexe est très beau.
Ben oui, parce qu'il y a le contraire, il y a un tel gâchis, la sexualité, c'est une telle banalisation, une telle... Voilà. Et tout ça se fait dans le choix, c'est tout.
Bien sûr, mais personne ne doit s'en mêler, c'est ça que je veux dire. Là, je crois à l'amour, et c'est ça qui est très beau dans le texte d'Un mauvais rêve, c'est qu'elle n'a pas accès à l'amour.
Mmh.
Simone n'a pas accès à l'amour. Et c'est pour ça que ça va même au-delà, je trouve, du bien et du mal, en fait, ce texte. Bernanos est très, très puissant, là. C'est vraiment tout l'humanisme de sa foi et du sacré, voilà. C'est l'amour. Elle n'a pas accès à l'amour. Comment on fait pour avoir accès à l'amour? C'est la question qu'il pose aussi.
Ça, c'est toujours un problème de liberté aussi, d'intelligence, de connaissance, de culture, de voilà, d'amour de l'autre, ça se fait.
Mais c'est là où le Christ intervient.
Oui, normalement.
Et c'est là où moi je suis chrétienne.
Mm-hmm.
Mais c'est toutes ces choses adjacentes que moi j'ai dû traverser et qui m'ont fait comprendre où était le centre, en fait. Voilà, toutes les choses périphériques, j'ai dû les abandonner, enfin en tout cas les remettre en question, essayer de lutter, de me battre contre elles pour arriver au centre, comme Claudel il dit, c'est l'oignon, voilà, arriver au éplucher pour arriver à la source.
Oui, il faut s'ouvrir, arriver à s'ouvrir, enlever tout ce qui nous cache, mais parce que la vie est une chose absolument magnifique. Mais évidemment, la vie est une chose magnifique, mais il y a des morts, il y a des horreurs, il y a des guerres, il y a n'empêche que c'est magnifique. Et si on arrive à faire le tri dans la liberté, dans le choix, c'est puis pas dans le gâchis, quoi. Parce que le problème de la sexualité, c'est ça, c'est le gâchis, la sexualité. La sexualité, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, c'est la chose la plus magnifique du monde. Faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas, D'ailleurs, on y trouve même, c'est grotesque, enfin, c'est ridicule. Mm-hmm. Moi, ça ne me choque pas, c'est sot, voilà, c'est bête.
Ça dépend.
Le christianisme, la religion est la plus importante du monde. Donc, c'est tout.
Alors, je crois que François veut s'exprimer.
Bah, bien entendu, j'allais lui poser la question.
Sa relation avec le ciel.
J'allais lui poser la question, évidemment, il n'y a pas de raison que...
Moi, j'ai par rapport à la religion.
Oui.
Moi, j'ai reçu aucune éducation religieuse, mais la seule place que pouvait avoir la religion, c'était à travers mes grands-parents qui sont protestants aussi, et je crois que c'est la seule incarnation que j'avais autour de moi, c'était ça, que j'ai mis du temps à comprendre, parce qu'on me l'a pas forcément expliqué, j'étais pas très curieux non plus, mais la curiosité est venue en grandissant, et je regardais ça de manière un peu mystérieuse, un peu lointaine. J'y venais, je m'en éloignais, j'essayais de comprendre. Et puis au bout d'un moment, en regardant mon père, par exemple, dont les parents étaient protestants, très impliqués dans la vie au culte, etc. Au bout d'un moment, moi j'ai trouvé ça charmant, déjà que mes grands-parents soient impliqués comme ça dans une vie associative, spirituelle, etc. Et je regardais mon père, je me disais, mais alors d'accord, donc lui, il est le produit de ces gens-là, de cette éducation religieuse-là. Qu'est-ce que moi, j'en ai hérité? Et du coup, c'était plus une espèce d'introspection sur moi-même pour essayer de me comprendre à une époque où on essaie de s'analyser, de savoir qui on est, etc. Je me disais, ah, d'accord, donc moi, j'aurais peut-être gardé ces traits de caractère-là. Ça viendrait de ça. Quand j'ai compris un peu la différence entre... Enfin, quand j'ai compris un peu ce que c'était les grandes lignes du protestantisme, je me disais, ah, d'accord, donc je serais peut-être quelqu'un de protestant, mais sans avoir aucune pratique et aucune éducation particulière, encore une fois. Et ça nous a étonnés tous les deux, je crois, quand on s'est rencontrés, oui. Puis qu'on a compris qu'on avait un peu comme ça en toile de fond ces mêmes origines. Et Christelle, tu m'as dit, ah, c'est marrant, je comprends des choses de toi maintenant. Donc, comme quoi, ça peut expliquer certains trucs. Et c'est vrai que maintenant, même encore, voilà, avec un petit peu plus de parcours de vie, quand je me retourne sur moi-même et que je me regarde et que je vois d'où je viens, etc., je me dis, oui, il y a peut-être des bribes, des traces de ça. Et ça me va. Très bien. Même si, voilà, je ne cherche pas à approfondir quoi que ce soit, parce que je me sens bien et plutôt en phase et en paix avec moi-même. Alors, Mais je suis toujours curieux. Je suis toujours curieux, quand même. Pour m'enrichir culturellement, tout simplement. Et puis, pour essayer de comprendre peut-être certaines choses, ouais.
Bah oui, parce qu'il y a un vieux machin qui s'appelle la mort, qui fait qu'on
va ouais, tous voilà, mourir,
donc
exemple,
peut-être un intérêt important de s'interroger, savoir un peu ce qui va se passer, d'essayer de réfléchir sur cette vie future.
Je précise que François est beaucoup plus jeune que Anne, et donc attend un petit peu...
Beaucoup plus jeune
avant que ces interrogations existentielles...
Donc,
on revient à toi.
Oui, on va aller. Franchement, je sais pas, ça commence très tôt en général.
Bah, si on regarde effectivement.
La problématique de la mort, c'est surtout à 20 ans qu'on l'a, ou 18 ans. Et puis maintenant, quand on est plus âgé, moi je suis âgé, donc je sais que je vais mourir, donc évidemment je m'interroge encore plus, mais. Parce que ce qu'il faut, c'est pas avoir perdu sa vie, quoi.
Ce qui est très très intrigant dans la nuit de Pâques, où donc l'Église accueille les nouveaux baptisés, les catéchumènes, c'est que là les 22 000 cette année qui ont demandé le baptême, ils ont tous 20 ans. Ils n'ont pas 50 ans. Hein. Mmh. Donc effectivement, c'est une interrogation. Qui peut prendre à tout âge, oui.
Nous, on a le régisseur là, qui travaille à l'espace, Bernanos, vient de se faire baptiser.
Ouais. Effectivement, notre jeune Clément est un jeune baptisé de la nuit de Pâques.
Ah, oui. Écoutez,
mais on ne lui a pas imposé, hein, il me l'a révélé.
Vous faites attention, parce que moi j'ai une comédienne qui s'est convertie au catholicisme, parce qu'on avait monté avec elle « Vous serez comme des dieux », la pièce de Gustave Thibon. Après avoir monté ça, elle s'est convertie. C'est converti, hein, vraiment.
C'est vrai qu'elle
était, en plus, elle était une bouffe curée complètement.
Ah oui.
Et puis elle est devenue maintenant complètement. Comme quoi, il faut faire attention.
Oui. Il y a une recrudescence, n'est-ce pas, des baptêmes.
Ah oui, il y a une recrudescence du baptême. Et puis beaucoup, ce qu'on ne dit pas, parce qu'à cause de l'apostat, qui aide beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme. Oui. Oui, mais ça, ils ne le disent pas, parce que c'est très dangereux.
Eh oui,
dans l'autre sens, ça va, mais dans ce sens-là, c'est très dangereux. Oui, oui.
Ah, c'est intéressant.
Oui, vraiment, oui. Donc, l'intérêt aussi du théâtre et de notre vie, c'est que le théâtre, c'est l'éphémère. C'est ça. Et le sens, on va mourir. Je veux dire, on sait qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on a fait de sa vie? Et faire du théâtre, c'est pas écrire un roman, c'est pas même faire du cinéma, parce qu'on peut, en faisant du cinéma, on peut avoir l'illusion que ça dure, que le film, on va pouvoir le repasser.
Ouais, ouais.
Tandis que nous, c'est terminé. La chose est là. Et c'est vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles le théâtre est vraiment au cœur de la vie, quoi. C'est vraiment l'art de la vie, quoi. Et en plus, comme je le dis souvent aujourd'hui avec avec l'IA, ce qui est en train de se passer, c'est formidable parce que c'est l'art de l'avenir, le théâtre.
Oui.
On va avoir de plus en plus besoin de vivants.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Hein. Vraiment,
c'est un métier qui...
Alors que les comédiens qui vivent de la synchro et qui vivent tout ça, ça va disparaître. Même le cinéma, même la télévision. Tandis que le théâtre, on aura toujours besoin d'avoir son frère humain vivre et agir devant soi. Quoi. C'est pour ça que c'est essentiel. Sauf que maintenant, il est dans une précarité économique et financière parce qu'il y a de moins en moins de subventions. Parce que voilà, des subventions directes et de subventions indirectes, parce que les spectacles, on ne peut plus les vendre quasiment plus, donc ça devient vraiment très, 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 très difficile pour les gens de notre métier.
Alors du coup, j'ouvre la porte grande pour revenir à Bernanos, pour dire que justement, ce texte, et en particulier Un mauvais rêve, même si il y a La France contre les robots, mais Bernanos est...
C'est un des derniers textes qu'il a écrit, La France contre les robots.
Est impressionnant pour nous parler à nous, à notre génération. On parle effectivement de l'IA, des fake news, des réseaux sociaux, de ce monde virtuel qui nous bouffe à chaque moment. Et quelque part, dans Un mauvais rêve, puisqu'on ne sait plus ce qui est la réalité du rêve, tout se cogne. Mais finalement, le vrai message de Bernanos dans ce texte, moi, c'est ce qui m'a vraiment travaillé intérieurement, c'est qu'il nous invite à revenir à la réalité, parce que le petit personnage du curé qui est tout souriant et qui part retrouver sa nouvelle paroisse, voilà, lui il est vrai, il est incarné. Et Bernanos nous invite à nouer des vraies relations entre humains, et il nous invite à rentrer vraiment dans l'amour. Et c'est ça le vrai message de ce texte. Il est pour nous et pour notre génération. Un mauvais rêve.
Et ça vous a donné envie de, je parle à vous tous, de relire ou de lire Bernanos?
Ah oui. Alors, pour ma part, je ne connaissais pas très bien. Et ça m'a permis de me plonger. Je suis fascinée, heureuse de. Je pense que ça peut donner envie d'y retourner. Je trouve que c'est un auteur mal connu, mal perçu, comme vous disiez au début, en introduction. Il y a beaucoup de clichés, de choses autour de lui. Ah, c'est un auteur de droite, c'est un auteur de machin. Et je trouve ça très réducteur et très dommage. Et j'aimerais bien qu'avec ce spectacle, lui, ça permette à des gens de venir découvrir d'autres facettes, la richesse, la complexité, la liberté de Bernanos. En tout cas, moi, ça m'a incité à ça. Donc, j'aimerais bien que ça permette ça aussi.
Oui. Moi, et moi, non.
Parce que nous-mêmes, quand on parle du spectacle, parfois, ils disent « Ah ouais, Bernanos, ah ouais, c'est... » Putain, mais c'est génial, Bernanos.
je confirme.
Quelquefois, je dis que, mais d'autres l'ont dit, c'est qu'il y a certaines, quand même, de ses œuvres qui sont mondialement connues, qui sont même plus connues que l'auteur lui-même. Et donc, les adaptations et au cinéma, les Bresson, les Brugberger, les Maurice Biala bien sûr, avec Sous le soleil de Satan et la Palme d'or. Tout ça fait partie quand même du patrimoine. Donc, il y a des œuvres de Bernanos que tout le monde connaît un peu. Mais Bernanos, c'est pas que ça, justement. Il y a plein de choses. Bien sûr, les romans, le théâtre, les œuvres de combat.
Le théâtre, c'est très...
Oui.
Les dialogues.
Limité.
Les dialogues, ouais, surtout les dialogues des Carmélites.
Mais quelle pièce. Oui. Voilà. Et donc, il y a les œuvres des combats, les œuvres plus politiques de la guerre. Enfin, il a encore beaucoup de choses à nous dire. Et effectivement, ça serait merveilleux si on arrivait à faire redécouvrir un peu cet auteur auprès de la jeune génération.
Le dialogue des Carmélites, c'est un texte très fort. Et puis avec ce balancement qui est extraordinaire de cette mère supérieure qui est tellement solide, tellement forte, tellement puissante, tellement ancrée dans ses certitudes. Et puis la petite sœur qui est à côté, qui meurt de peur. Et puis la balance à la fin, tout d'un coup, elle prend, la mère supérieure offre son courage d'une certaine façon et prend sa peur. Il y a cette espèce de balancement dans l'œuvre qui est tout à fait bernanossien et qui est absolument, absolument admirable. C'est vraiment un très beau texte. Alors, sur le plan de l'organisation scénique de la pièce, c'est moins bien foutu parce que Port-Royal, par exemple, de Monternan, qui lui pourtant n'est pas croyant. Mais la pièce est beaucoup plus sur le même sujet, enfin quasiment, même si ce n'est pas la même période. Mais la pièce est moins bien fichue que parce qu'il n'a pas cette connaissance du théâtre dont on parlait tout à l'heure, cette connaissance intérieure. C'est pour ça que j'insistais sur cette idée d'adaptation, savoir comment vous aviez travaillé l'adaptation. Redonner une théâtralité, avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le non-dit des personnages qui sont là, parce qu'on n'est pas seulement nos voix, nos paroles, on est aussi nos silences, on est aussi notre passé. Très, très souvent, les comédiens ne comprennent pas ça. Et moi, je vois des pièces maintenant qui sont des pléonasmes. Non, c'est pas ça. Le vécu d'un être, c'est aussi ce qu'il ne dit pas, autant que ce qu'il dit. ce qu'il pense autant que ce qu'il exprime. C'est voilà, son passé autant que son présent. Parce que au théâtre, on est évidemment, c'est le ici et maintenant, on est dans le présent. Mais les personnages, ils ont un passé, ils ont une histoire. Sinon, on peut rien comprendre. Et tout ça, on doit le sentir dans un spectacle. Et un auteur, un grand auteur, il sait faire sentir ça parce qu'il a cette connaissance intrinsèque, cette connaissance charnelle du théâtre. Mais c'est tellement rare que c'est triste, quoi. C'est vraiment triste, quoi, de voir ça. Et alors, quel est votre roman préféré ?
De Bernanos ?
Oui, de Bernanos, bien sûr. Puisqu'on parle de lui. Je rappelle à nos auditeurs, on parle de Un mauvais rêve.
C'est pas facile comme question.
Non,
hein. On est comédien et metteur en scène, on n'est pas des spécialistes absolus de Bernanos. C'est un peu piégeux comme question. Enfin, je me permets.
Non,
moi, je saurais pas répondre. Je vous le dis.
J'ai pas tout lu. Alors, j'aurais pas
pensé.
Pour moi, c'est un mauvais rêve. Oui, vraiment.
C'était une invitation subtile à
c'est
dire
vrai.
Ça.
Vraiment. Et d'ailleurs, c'est pas le seul roman. Il y a c'est un diptyque entre il y a Un mauvais rêve, puis après il y a un crime qui est plus connu.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et donc,
j'ai lu il y a longtemps.
Voilà, un mauvais rêve, c'est comme si c'était l'antichambre d'un crime.
D'accord.
Avec ce personnage d'Évangeline qu'on retrouve donc dans un crime. Et là, en fait, c'est la création de ce personnage.
Ah, d'accord.
C'est Simone Alféri qui se transforme en Évangeline pour après basculer dans l'autre roman qui est un crime. D'accord. Donc tout ça, on pourrait encore imaginer aussi, encore une autre adaptation.
Parce qu'un crime, ça a été publié de son vivant.
Oui,
alors
tout à fait.
Alors qu'un mauvais rêve, ce n'est pas le cas.
Tout à fait.
On est bien
tout
d'accord.
Tout à fait. Tout à fait.
Hein, donc, et Vianney, ton roman préféré.
Je ferai du Sainte-Thérèse, je prends tout.
Oh, bah, il y a quand même des chefs-d'œuvre. Sous le seuil de Satan, c'est quand même un texte absolument extraordinaire. Monsieur Wynne, dont je parlais tout à l'heure. Monsieur Wynne,
c'est le haut du panier, je suis d'accord.
C'est vraiment là, on atteint quand même des mouchettes. Parce qu'il n'y a pas seulement le film de Bresson, mais il y a aussi les textes, quoi. Il faut revenir aux textes, c'est tellement important. Et puis c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une différence, là encore, que souvent on ne comprend pas bien, entre un interprète et un comédien. C'est-à-dire que lire Bernanos, ce n'est pas la même chose que de l'incarner, qu'en incarner un personnage, c'est deux choses différentes. C'est un autre métier d'être interprète. Souvent les gens ne comprennent pas, quoi. C'est pas là on porte une parole, on n'est pas, alors que être comédien, c'est incarner, c'est prendre le corps, prendre l'être, prendre la vie d'un personnage, c'est deux choses complètement complètement différentes. J'imagine que à l'espace Bernanos, vous faites des lectures de Bernanos.
Absolument. D'ailleurs,
moi, j'en ai fait beaucoup au Nord-Ouest.
D'ailleurs, je vais raconter l'histoire d'il y a 2 ans. On a fait une petite soirée pour fêter les 30 ans de ce théâtre, de cet espace Bernanos. Et j'avais demandé effectivement à quelques voix de venir chacun avec comme cadeau le plus bel extrait, le plus beau texte selon eux de
Bernanos.
De Bernanos. Donc, effectivement, il y a eu des interprètes qui s'appellent Sébastien Lapac, qui s'appelle François Angelier. Voilà,
mon ancien collègue de Figaro.
Des grands bernanosiens qui sont venus avec des très beaux textes. Il y avait d'autres qui ont incarné, qui étaient. Il y avait Catherine Salvia.
C'est une femme admirable, Catherine.
Ouais. Et puis il y avait une fille que je ne connaissais pas bien, c'est Maxime Daboville qui m'a dit si, tu devrais faire venir Christelle Reboul, et qui nous a fait découvrir un extrait d'Un mauvais rêve. C'était il y a 2 ans.
Ah d'accord, et c'est ça qui
me dit. Elle a déchiré la soirée. Elle était
sa race.
elle était Simone ce jour-là. Il s'est passé une vibration et tout le monde a eu envie de connaître plus ce texte. En tout cas, moi, ça m'a travaillé depuis 2 ans. Voilà comment est née.
D'accord.
Elle a incarné Bernanos ce soir-là.
Bah voilà.
Déjà. Peut-être que, je vois l'heure qui avance, peut-être qu'il faut qu'on parle un petit peu des gens qui t'ont aidé dans l'aventure, parce qu'il y a de la lumière, il y a très travaillé, il y a de la musique. Et puis peut-être faudrait qu'on entende quelques extraits de nos comédiens qui sont là, peut-être.
Ah bah, tout est possible. Alors... Il nous reste 7-8 minutes. Il faudra que je garde 2-3 minutes juste pour dire 2-3 petites choses sur l'actualité des spectacles.
Bien sûr, bien sûr.
Mais sinon, vous avez envie de nous dire un petit extrait, au contraire.
Mais d'abord, peut-être
très rapidement, je rends hommage et je remercie toute l'équipe artistique, Denis Koransky aux Lumières, Mehdi Bourayou pour la création sonore et pour les costumes, Isabelle Domerleur. Et puis, bien sûr, Christelle Reboul, Olivier Claverie, François Nambeau, et voilà.
Voilà, on se croirait au Molière.
Hein. Oui.
Tout de suite,
ouais.
Atmosphère Molière, là, vraiment. Là.
Et ma fille a même enregistré.
Et vous n'avez pas remercié vos parents.
Ils sont venus, ils ont aussi ce fait là, je suis très content. Ouais, je les remercie aussi.
Alors, donc, ce petit extrait, alors... Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est le directeur qui a voulu, c'est pas moi. Hein, là, vous en prendrez à lui tout à l'heure.
J'ai encore envie de vous entendre.
Pas trop long, mais 4 minutes, 3-4 minutes, mais pas plus.
Entre nous deux.
Ouais, le moment où Simone...
Ouais.
Alors je dis à nos auditeurs qu'ils sont en train de se préparer, là,
Pendant qu'ils sont en train de se préparer, moi j'ai un extrait sous les yeux. On échange bien des idées. Pourquoi n'échangerait-on pas des rêves, et surtout des mauvais rêves? On peut bien porter à deux les mauvais rêves. Les mauvais rêves sont lourds. Voilà, vous avez eu le temps de vous préparer et choisir votre morceau. Choisi. Vous donnez le contexte.
Olivier.
Vous nous donnez peut-être le contexte, ce qui se passe avant ou...
Il y a un silence, là.
Hein. Philippe vient de se suicider. Ouais. Olivier débarque
chez Simone sous le choc d'avoir assisté au suicide de son ami Philippe, donc comme tu l'as dit, qui vient de se suicider, et il vient trouver refuge chez Simone.
Olivier, je ne te perdrai pas, je te sauverai, après que m'importe. Je veux te sauver, non te garder. Avant de te connaître... Si tu n'étais pas entrée dans ma vie, les rêves m'auraient suffi. Tu ne veux pas te partager avec moi. T'échanger avec moi. Pourquoi n'échangerait-on pas des rêves et surtout des mauvais rêves? Les mauvais rêves sont trop lourds. On peut bien porter à deux les mauvais rêves. Et puis les rêves, ça se combine. Quand la proportion y est, une vraie chimie. Et ce n'est pas cette vieille tante au fond de sa vieille maison sordide de Souville qui...
Des rêves, mais à quoi bon les rêves? Gans et toi, vous nous avez empoisonnés avec vos rêves. Vous ne pouviez pas nous laisser tranquillement jouir de nos corps, sans remords, sans scrupules? Vous, vous haïssez votre plaisir. Vous méprisez votre corps parce qu'il est l'instrument du péché. Vous méprisez votre corps depuis l'enfance. Pour vous, votre corps... C'est la petite grenouille qu'un gosse pique avec des épingles. Vous redoutez et vous désirez votre corps à la fois comme une chose étrangère. Aimer, dans votre langue, ça veut dire « souffre avec moi, souffre pour moi, souffrons ensemble ». Et moi, je suis tombé dans votre morale comme une mouche dans une jatte de crème. Et je pourrais peut-être m'en libérer par le suicide ou par un crime. Ah oui, tiens, un crime. Tiens, je crois que j'aurai le courage d'assommer cette vieille...
Cette vieille?
Cette vieille canaille de Gans, oui.
Olivier, allons-nous-en.
Où?
Loin. Oh, très loin, imagine. Une fuite à deux à travers le monde. Tous ces matins et ces soirs, ces soleils. Ces palais qui trempent dans l'eau bleue. Cette découverte projetée d'océan en océan. Mais rassure-toi... Nous ne partirons pas ensemble, je ne t'enlèverai pas. J'ai donné ma démission à Gantz, vendu mes bijoux, raclé mes tiroirs, bref, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu pourras me rejoindre.
Si je pars, moi je partirai pour de bon et ça ne va pas tarder. Et qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui empêche tant de malheureux comme moi de prendre leurs clics et leurs claques et d'aller droit devant eux, de ville en ville, sans s'arrêter, jamais, une, deux, s'échapper? Courir au devant de l'aube, il n'est que de fuir. Une, deux. Lorsque j'étais petit, je me réveillais la nuit avec cette fringale de départ de grand air. Et tiens, une ville inconnue qu'on traverse la nuit, et tout à coup, tu dépasses la dernière maison, et tu retombes dans le silence comme dans le vide. C'est comme une chute. Un homme qui cesserait de tenir à la terre glisserait dans le ciel, les yeux fermés, les bras en croix.
Et c'est un exercice extrêmement difficile. Hein. On ne se rend pas vraiment compte, mais faire ça à la radio, en direct, comme ça, c'est un exercice vraiment très très difficile, parce qu'il n'y a pas... Les comédiens n'ont pas l'espace, ils n'ont pas le lien comme ça, et d'arriver à le faire. Donc bravo, ça donne envie de... Je ne sais pas ce que ça donne à la radio, puisque nous on est en direct dans là. Je ne sais pas ce que ça a donné, je ne sais pas si ça a donné envie, mais moi ça m'a donné envie d'y aller. En tout cas, donc... Bon, maintenant j'espère que je ne serai pas déçu, enfin on verra bien comment ça va se passer. Ouais. Il nous reste quelques minutes pour parler un peu de juste des spectacles qui se jouent à Paris un peu. Vous avez vu des choses qui vous ont plu? C'est le moment de...
Moi, j'ai vu Made in France qui m'a beaucoup plu.
Oui, c'est où ça?
C'est à la Renaissance. Je crois qu'ils jouent 3 fois par semaine.
Ah oui, d'accord.
Actuellement, ils ont des nominations d'ailleurs, des belles nominations.
Ouais. Alors, ça ne va pas dire grand-chose.
Non, je suis d'accord.
Non, mais je vais dans le sens de Anne, c'est un super spectacle.
Ah oui, bah, Made in France. Très bien, parfait. Et vous avez vu des choses qui vous...
Moi, j'avais vu La Jalousie, mais qui ne se joue plus maintenant. Déjà, c'était magnifique, ça.
D'accord. Et vous allez beaucoup au théâtre, non?
Oui, relativement. Quand
Oui. Et vous, comme directeur, non? Comme toi
Alors, j'en consomme un peu, mais je crois aussi que ça ne se joue plus. Les Justes, hein.
Ah, le spectacle d'Abbaville, c'est nullissime. Moi, j'adore Maxime, qui est un vieux copain. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il a fait des Justes. Non. Il a réduit. Là. Ce qui est bien, c'est qu'il a été dans la simplicité. Dans une simplicité, vraiment, ça, c'est très très bien d'avoir été dans cette simplicité. Le problème, c'est que étant dans la simplicité, on voit la nullité du texte. On voit à quel point Camus est un mauvais auteur de théâtre. C'est caricatural, c'est vraiment, c'est d'une bêtise profonde. Je veux dire que c'est une très, très, très mauvaise pièce, quoi. C'est paradoxal, parce que c'est autant... mais vraiment, je l'ai écrit, hein, Maxime le sait, c'est pas le problème. Mais vraiment, moi je connais bien la pièce, je l'ai vue plusieurs fois. À chaque fois, il y a des, c'est caché par des décors, des machins, des trucs. Tandis que là, il a travaillé vraiment dans la simplicité la plus totale. Vraiment, c'est la direction d'acteurs, des comédiens, voilà, il y a rien d'autre. Donc là, on entend vraiment le texte dans sa pureté, dans sa force, et dans sa sottise, dans sa primarité, c'est caricatural, c'est manichéen, voilà.
J'entends. J'ai aimé cette grande sobriété, justement. Alors voilà, Maxime est un bébé metteur en scène. Il est d'abord comédien.
Oui, mais
pour un premier jet, j'ai trouvé qu'il se débrouillait bien déjà.
Mais ce qui est drôle, c'est que le théâtre de Sartre, en revanche, n'est pas du tout caricatural, contrairement à ce qu'on pense. En revanche, lui, vraiment, on peut remonter les pièces de Sartre sans alors que les Justes, c'est et tout le théâtre de Camus, d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on ne peut rien sauver du théâtre de Camus. Bon, après avoir dit ces méchancetés-là, qu'est-ce que j'ai vu, moi, de bien? Tiens, j'ai vu un truc qui est pas mal du tout. Là encore, avec des petites réserves, mais est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant? C'est une mise en scène et un texte d'Antoine Lemaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. C'est au théâtre Essayon. C'est une pièce sur la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment, vraiment très bien. Il y a des choses qui sont là encore. On aurait préféré que ça reste complètement dans ces trois unités de temps d'action. Et donc ça aurait été plus fort. Là, il y a quelques petits plaisirs du metteur en scène qui fait venir de la danse, enfin des conneries, des trucs qui nous ôtent un peu de l'empathie qu'on peut avoir pour les personnages. Mais c'est très fort et très fort. Vraiment, j'ai été vraiment touché par ça. Et puis je voulais parler aussi. Là, c'est pas un spectacle, mais je viens de recevoir les textes d'enfance de Monterland qui vient d'être publié là chez Classic Garnier, hein, qui s'appelle infantilio, c'est-à-dire ce sont des textes qu'il a écrits entre l'âge de 11 ans et l'âge de 14 ans. Et c'est absolument génial.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Théâtre, dirigé par Jean-Luc Génère, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 17 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.